VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Ici à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par les attaques djihadistes au Mali. Le Conseil de sécurité de l'ONU compte discuter ce mardi de la sécurité en Afrique. La constitution d'une force internationale anti-djihadiste au Sahel doit y être évoquée. Cette réunion fait suite à la double attaque lancée par des hommes armés non identifiés hier contre des camps de la MINUSMA, la mission onusienne au Mali. Des incursions qui ont fait 18 morts, dont 14 à Tombouctou dans le nord et 4 à Douenza dans le centre du pays. Si la situation a été maîtrisée dans cette dernière localité, en revanche à Tombouctou, l'armée malienne continue de traquer des assaillants infiltrés dans la ville. Le film des événements, en commençant par la situation à Tombouctou avec notre correspondant Kassim Traoré.
Tout a commencé vers 14h quand des tirs nourris provenaient du quartier général de la MINUSMA dans la ville de Tombouctou. Il s'agissait d'une attaque des hommes armés non identifiés. Après 4 heures de combat, le bilan fait état de la mort de 5 gardes de la sécurité de la MINUSMA, tous de nationalité malienne, d'un membre de la gendarmerie malienne, d'un agent civil contractuel de la MINUSMA. Un garde de sécurité malien et 6 casques bleus ont été blessés, dont 2 grièvement. 6 assaillants ont été abattus lors de la riposte de la MINUSMA à l'attaque. Pour une des rares fois, les casques bleus ont réagi rapidement en déployant une force de réaction rapide destinée à sécuriser le quartier général de la mission et des hélicoptères d'attaque pour traquer d'éventuels assaillants. Quelques heures avant, la MINUSMA avait subi à Douanza une attaque terroriste. C'était vers 5h du matin, les camps de la MINUSMA à Douanza dans la région de Mopti ont été la cible d'une attaque coordonnée par des hommes armés non identifiés aussi. Les casques bleus ont riposté et 2 assaillants ont été abattus. L'attaque a fait 2 victimes, un membre de l'armée malienne et un casque bleu. Un autre casque bleu a été légèrement blessé. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, voisin d'un national de 3 jours depuis hier suite à l'attaque meurtrière contre le café-restaurant Istanbul à Ouagadougou, dont le mode opératoire rappelle une incursion djihadiste au même endroit en 2016. Les autorités burkinabées ont donné des explications hier. Maïsa Sérémé, la procureure du Faso, a déclaré à la presse que les 2 assaillants abattus étaient très jeunes. Elle a aussi donné des détails sur l'identité des victimes. On écoute Maïsa Sérémé, procureure du Faso.
Nous déplorons malheureusement 18 personnes tuées et pour l'instant 15 formellement identifiées, dont 8 Burkinabés, 2 Koweïtiens, une Canadienne, un Sénégalais, une Nigériane, un Turc et un Français. 3 corps sont en cours d'identification. Les 2 terroristes ont été abattus. Nous déplorons aussi 22 blessés, dont 5 de nos vaillants forces de défense et de sécurité. 40 personnes ont été libérées et nous enregistrons des dégâts matériels très importants. Sous la conduite du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, les enquêteurs de la gendarmerie nationale et de la police nationale ont ouvert une enquête pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, assassinat, tentative d'assassinat, détention illégale d'armes à feu et de munitions, destruction volontaire aggravée de biens, le tout en relation avec une entreprise terroriste contre X, afin d'aider à l'identification des hôtes, des complices ou des facilitateurs éventuels depuis la planification jusqu'à l'exécution de l'attaque terroriste, nous lançons un appel à témoins.
Maïsa Sérémé, procureur du Burkina Faso. En Guinée-Bissau, le gouvernement et la principale centrale syndicale ont signé un accord pour une hausse du salaire minimum et le paiement d'arriérés de salaire, ce qui a mis fin à la grève des fonctionnaires. Yacouba Ouédraogo.
Le travail a repris lundi dans la fonction publique suite à un accord entre le gouvernement et la centrale syndicale. Toumani Baldé, ministre de la fonction publique, a confirmé la signature d'un mémorandum en ajoutant que le gouvernement a pris des engagements dont le réajustement du salaire minimum et le paiement des arriérés selon un calendrier. L'Union nationale des travailleurs de la Guinée-Bissau avait lancé le 8 août une grève de 3 jours qui avait paralysé toute la fonction publique. Le syndicat réclamait une hausse du salaire minimum de 19 200 à 59 000 francs CFA et le paiement d'arriérés de salaire dû au titre de l'année 2003. La Guinée-Bissau est un des derniers pays dans le classement du PNUD basé sur l'indice de développement humain. Le pays a connu plusieurs années d'instabilité marquées par des coups d'État et des mutineries de soldats.
Sierra Leone, au moins 312 morts. Tel est le bilan des coulées de boue, glissements de terrain et inondations causées par des pluies torrentielles dans la nuit de dimanche à lundi à Freetown, la capitale. Un bilan qui risque encore de s'alourdir selon les autorités nationales.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, s'inquiète du nombre croissant de Congolais menacés par la faim extrême. La majorité des personnes en question se trouvent dans des zones affectées par les conflits, notamment dans les régions du Tanganyika et le Kasaï. Selon Lina Mounissa, a adjoint Alexis Bonté, représentant par intérim de la FAO en RDC.
On a pu estimer qu'il y avait environ 7,7 millions de personnes qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire assez grave. C'est une augmentation d'environ 30% du nombre de personnes qui sont dans une crise alimentaire d'urgence. Et la raison principale est liée à deux types de conflits qu'on retrouve d'une part au Tanganyika, donc ça c'est à l'est de la République, où il y a un conflit communautaire, et au niveau des provinces du Kasaï. Rien que pour ces deux conflits, on a pratiquement 2 millions de déplacés, entre guillemets, nouveaux, par rapport à l'année passée.
À part la région du Tanganyika et le Kasaï, est-ce qu'il y a d'autres régions touchées par cette faim extrême?
Au-delà des deux zones qui ont été affectées au cours des derniers mois, donc le Tanganyika et le Grand Kasaï, il y a tout l'est de la RDC, donc principalement le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et ces provinces, ça fait pratiquement deux décennies, elles sont sujettes à de l'insécurité ou à de l'instabilité due à des groupes armés qui malheureusement sévissent dans les campagnes et qui provoquent également des déplacés. 80% d'entre elles sont accueillies par les familles locales. Donc même ces familles maintenant, au lieu de nourrir 5, 6, 7 personnes, maintenant elles doivent nourrir pratiquement 10 personnes. Et tout ça avec la même superficie de terre. Donc, elles n'ont pas pu augmenter leur production.
Quelle est la différence entre la famine et la faim extrême?
Pour déclarer une famine, il faut à la fois qu'il y ait 30% de malnutrition aiguë et qu'il y ait également le doublement du taux de mortalité journalier par rapport à la normale. Et il faut également qu'il y ait 20% de la population concernée qui soit dans un manque d'accès extrême à la nourriture. Donc il faut ces trois conditions pour déclarer une famine. Au Congo, même si les gens sont dans une situation très difficile, ça va être quasiment impossible d'avoir une famine parce que la nature est extrêmement généreuse, mais les gens vont avoir une faim assez élevée parce qu'ils vont avoir un manque de diversité au niveau de l'alimentation, de l'équilibre, mais également au niveau des quantités.
Par rapport à cette faim extrême qui menace la population congolaise, qu'est-ce qui doit être fait?
Les causes principales, c'est surtout l'insécurité. Et la deuxième cause, c'est la pauvreté chronique. Le niveau de pauvreté chronique, il est d'environ 60%. Et des régions comme au Kasaï, et même avant le conflit, c'était de l'ordre de 75%. Ce qu'il faut faire, c'est que le gouvernement, avec les partenaires au développement ou les partenaires humanitaires, on puisse travailler ensemble pour que, d'une part, le gouvernement puisse continuer à poursuivre ses efforts à remettre la sécurité sur l'ensemble du territoire et que les acteurs humanitaires puissent bénéficier des financements des bailleurs de fonds pour pouvoir aider d'une part maintenant dans l'urgence à donner des aliments aux personnes déplacées et aux familles, mais également comme toutes ces personnes pratiquement sont des agriculteurs, il faut qu'on puisse redonner des semences, des outils, des capacités de production à ces gens pour qu'ils puissent retourner à une vie normale avec le maximum de dignité possible grâce au travail qu'ils pourront reprendre et pouvoir s'alimenter par eux-mêmes, pouvoir retrouver des revenus et avoir une réinsertion sociale et économique la plus correcte possible.
Alexis Bonté, représentant par intérim de la FAO en RDC. Et pour terminer, en Zambie, le chef de l'opposition, Hakainde Hichilema, a comparu hier à Lusaka au premier jour de son procès. Accusé de trahison et en prison depuis avril, l'opposant risque jusqu'à la peine de mort. Abdourahmane Dia.
À l'ouverture de son procès, l'opposant zambien a plaidé non coupable. Le parquet a obtenu un ajournement de l'audience jusqu'à demain mercredi. Des dizaines de policiers anti-émeutes ont quadrillé l'accès au tribunal. Plusieurs journalistes étrangers se sont vus refuser l'accès à la salle d'audience. Hakainde Hichilema est incarcéré dans une prison de haute sécurité pour avoir, selon le dossier d'accusation, gêné le passage d'un convoi du président Edgar Lungu dont il conteste la réélection il y a un an. S'il est reconnu coupable, le dirigeant du Parti Uni pour le Développement National risque un minimum de 15 ans de prison et, dans le pire des cas, la peine de mort. Son arrestation musclée en avril dernier a constitué un tournant dans l'escalade des tensions en Zambie. à la mi-juillet, le Parlement a voté l'instauration de l'état d'urgence pour 3 mois après une série d'incendies criminels attribués par le pouvoir à l'opposition zambienne.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.